Europe 1. Après sa mort en 1796, le prince de Ligne, un aristocrate belge, rend hommage à la tsarine de Russie en la surnommant Catherine le Grand. En masculinisant son nom, il voulait démontrer qu'elle avait été l'un des plus grands souverains du XVIIIe siècle. Arrivée au pouvoir par un audacieux coup d'État, cette petite princesse germaine, mariée au futur tsar de Russie, a pris en main son destin et celui du plus grand pays d'Europe. Elle a su le réformer, faire des conquêtes et apporter les lumières de France jusqu'au bord de la Neva. Catherine II le Grand, tsarine de toutes les Russies. Épisode 1, une princesse surdouée. Nous sommes en Russie le 13 septembre 1762. Catherine fait son entrée solennelle dans Moscou. Elle a 33 ans et elle règne seule depuis 2 mois sur le pays. Dans quelques jours, son couronnement parachèvera sa conquête du pouvoir. La tsarine est impatiente. Ce moment, elle l'attend avec ferveur. Toute la ville partage sa liesse. Des étoffes précieuses recouvrent les murs des immeubles qui bordent les rues où défile son cortège, formé de militaires en grande tenue et de nobles en vêtements brodés de pierres précieuses. Catherine salue la foule qui l'acclame depuis sa calèche ouverte. Parfois, entre 2 sourires aux moscovites, elle jette un coup d'œil inquiet à son fils assis à côté d'elle. Le petit Paul a bien failli mourir sur la route entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Le pauvre petit a été terrassé par la fièvre pendant presque 2 semaines. Il est toujours pâle et des quintes secouent par moments son corps chétif. S'il était mort avant le sacre, la légitimité de Catherine aurait été remise en cause. En quel honneur prétendrait-elle gouverner la Russie, elle, l'Allemande, si elle n'était pas la mère du tsarévitch, l'héritier du trône? Pourtant, Catherine a tout fait pour faire oublier son origine étrangère. Elle a l'âme plus russe que n'importe quel moujik, que n'importe quel paysan attaché à cette terre depuis des temps immémoriaux. 10 jours plus tard, le 23 septembre, Catherine, parée de son lourd manteau impérial, entre au son des trompettes dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin. Des cloches se mettent à sonner. Au loin, des coups de canon résonnent. Dans la nef, l'archevêque Novgorod, accompagné de plusieurs dizaines de prêtres orthodoxes, tous de noir vêtus, viennent à sa rencontre. L'homme de Dieu lui tend une croix que Catherine baise respectueusement. Elle remonte ensuite la nef en s'arrêtant devant chaque icône pour se recueillir selon les rites orthodoxes. Après ses prières, elle prend place sur le trône près de l'autel. Son fils Paul s'assoit à ses côtés. Enfin, l'archevêque Novgorod s'approche avec l'imposante couronne de Russie pavée de 5000 diamants et de perles. Catherine la prend entre ses mains et la pose elle-même sur sa tête. On lui tend ensuite les régalias, les autres attributs du pouvoir impérial, le sceptre et le globe surmonté d'un saphir de 200 carats. Pendant toute la liturgie, elle se tient debout, bien droite, sans ployer sous le fardeau de l'or et des pierres. Ces nouveaux privilèges d'autocrate lui rendent ces objets si légers. À sa naissance en 1729, Catherine II de Russie est baptisée Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst. Son père appartient à l'aristocratie prussienne. Quand Sophie aura 13 ans, il héritera d'une petite principauté. Ses titres sont plus ronflants que ses cassettes ne sont garnies. La famille est presque pauvre en regard de son rang. La mère de Sophie, Jeanne-Élisabeth de Holstein-Gortop, est la sœur du roi de Suède. Ses liens de parenté avec les souverains des cours d'Europe centrale lui permettront de trouver en temps utile un bon parti pour marier sa fille. Sa fille aînée. Sa déception. Ah, si seulement Sophie avait été un garçon. Mais elle ne l'est pas. Et elle est laide en plus d'avoir une santé fragile. Une longue maladie vers l'âge de 6 ans l'a forcée à rester alitée plusieurs semaines. Quand elle a pu se relever, sa colonne vertébrale formait un Z. Il a fallu lui faire porter un corset rigide qui l'immobilisait des hanches jusqu'au cou pendant presque 3 ans. La future tsarine devra sans doute à ce traitement de choc son magnifique poraltier. Néanmoins, la princesse veille à ce que sa fille, qu'elle surnomme Fick, ait une excellente éducation. Fick est très vive, douée même. Elle apprend vite à parler parfaitement le français, c'est la langue internationale à l'époque, et se montre très pieuse, elle qui est élevée dans l'austérité du protestantisme. Alors oui, elle n'est pas jolie. Mais son intelligence et son envie de plaire lui confèrent un charme irrésistible. Sa mère trouve que ses qualités sont l'expression de son orgueil. Enfin, vaniteuse ou non, il faudra quand même la marier. Les jeux diplomatiques de Jeanne-Élisabeth la conduisent en Russie, où elle espère fiancer sa fille à Pierre, l'héritier de la tsarine Élisabeth Ière. À 15 ans à peine, Fick découvre les cours de Moscou et de Saint-Pétersbourg. On les dit plus fastueuses que Versailles. Tout est sublime, oui, mais ce ne sont que des décors de théâtre. Fick constate que l'aile du palais de Moscou dans lequel elle loge est en bois. À chaque fois qu'il pleut ou qu'il neige, de l'eau glacée dégouline le long des lambris et des dorures. Heureusement, la tsarine est en train de faire reconstruire le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, en pierre cette fois. Il sera enfin digne de la grandeur de sa dynastie, les Romanov. Pour le moment, il faut se contenter de ce camping de luxe, des murs en bois qui laissent passer l'air de l'extérieur et de la vaisselle d'or qu'on pose sur des tables branlantes. Mais Fick n'a jamais été passionné par le luxe. Ce qui l'intéresse, ce sont les jeux de pouvoir, le fonctionnement de la cour qui s'agite autour de cette femme, Élisabeth, la tsarine de toutes les Russies. Et voici ce que Fick comprend. Au début du siècle, la cour de Russie était régentée par une étiquette ancienne où le tsar, installé au Kremlin, était comme une icône, rigide, inaccessible, presque sacrée. Pierre Ier le Grand, le père de la tsarine Élisabeth, a commencé à moderniser son pays en s'inspirant des cours d'Europe occidentale et des monarques éclairés. Il a d'abord ajouté du prestige à ses fonctions en se faisant offrir par le Sénat le titre d'empereur de toutes les Russies. Il a ensuite envisagé sa fonction comme celle d'un serviteur de l'État. Alors oui, il restait un autocrate, son pouvoir était personnel et absolu, mais il voulait être assisté dans sa tâche par une nouvelle aristocratie hiérarchisée et disposée à l'aider à servir le pays. Désormais, les femmes n'étaient plus exclues des cercles de pouvoir, même si Pierre leur refusait toujours un rôle dans l'armée. Pierre le Grand est mort en 1725, satisfait d'avoir fait entrer la Russie dans le concert des nations. Après une période d'instabilité du pouvoir, sa plus jeune fille, Élisabeth, s'est emparée de la couronne par un coup d'état militaire sans néanmoins faire couler le sang. Elle a aussitôt fait enfermer le tsar Ivan VI dans une prison. Âgée d'un an et demi seulement, celui-ci n'avait pas vraiment les moyens de lui résister. La tsarine n'a pas mis longtemps à affermir son pouvoir. Elle était un homme d'état avisé et une femme coquette tout à la fois. Sacré personnage qui fascine sans doute un peu notre jeune fille. Pour renforcer son pouvoir et assurer la continuité des Romanov, Élisabeth avait besoin d'un héritier. Voilà pourquoi elle a adopté son neveu, Pierre de Holstein-Gortop. Le pauvre garçon, orphelin très jeune, a été élevé par des précepteurs qui l'ont martyrisé et affamé. Il est alcoolique depuis qu'il a 10 ans et ne trouve de réconfort qu'auprès de ses poupées et de ses petits soldats de plomb. Il n'est pas taillé pour le pouvoir, mais au moins, il ne fait pas d'ombre à la tsarine. Élisabeth a quand même conscience qu'il va falloir lui trouver une femme solide. Et cette épouse idéale, c'est la jeune Fick. La tsarine, qui a pourtant si mauvais caractère, s'entend tout de suite avec l'adolescente prussienne. Voilà comment les fiançailles de Fick sont conclues. Pour devenir un jour tsarine, la princesse doit devenir russe. Ce n'est pas un problème. Elle apprend parfaitement la langue de son pays d'adoption et se convertit à l'orthodoxie. À cette occasion, elle prend le prénom de Catherine. Le vilain petit canard Sophie, surnommé Fick, vient de se changer en cygne. Le mariage de Catherine et de Pierre est célébré le 21 août 1745. Le matin de la cérémonie, la tsarine vient voir Catherine dans sa chambre. Elle admire sa belle robe glacée d'argent, une jolie expression pour dire qu'elle est entièrement brodée de fils de métal. C'est très beau, mais aussi affreusement lourd. Pour être agréable à sa nouvelle nièce, la tsarine lui propose de se parer des bijoux de son choix. Elle peut même piocher parmi les siens. Enfin, elle place sur la tête de la nouvelle grande duchesse la couronne grand-ducale. Catherine peine à supporter le poids des étoffes et des bijoux. Sa couronne lui cause d'abominables maux de tête qui vont faire de cette journée un enfer. Mais elle n'aura pas le droit de l'enlever. Un mariage orthodoxe impérial obéit à des rites. Cette journée est un douloureux apprentissage pour Catherine. Hélas pour elle, sa nuit de noces ne sera pas plus douce. Elle attend des heures dans son lit que Pierre, ivre mort, daigne la rejoindre. La suite, je sais que vous aurez du mal à le croire. Mais aussi incroyable soit-elle à entendre, je n'ai pas l'intention de vous la cacher. Après avoir fini ses beuveries avec les soldats, Pierre s'est allongé dans le lit à côté de Catherine. Et c'est alors que la gouvernante du Grand-Duc entre dans la chambre. Elle a les bras chargés de dizaines de poupées et de petits soldats qu'elle dispose sur le lit conjugal. Catherine, médusée, regarde le rituel du soir de la gouvernante et de Pierre. Elle finit par comprendre que son mari ne la touchera pas ce soir. Il ne la touchera peut-être même jamais. Dans les mois qui suivent, Catherine découvre la jeune cour de son époux. Tout n'est que distraction, chasse, bal, dîner. Quel ennui pour un esprit aussi brillant que celui de Catherine. Et puis la grande duchesse se rend compte que son titre n'est que de la poudre aux yeux. Les courtisans se détournent d'elle quand le favori de l'impératrice apparaît. C'est à lui qu'on fait des courbettes, pas à elle ni à son mari. Catherine accepte la dure réalité. Elle n'est qu'une figurante. Alors elle remplit son temps en lecture. Machiavel, Montesquieu, Voltaire, Tacite. Elle dévore tous les grands auteurs de l'Antiquité, de la Renaissance et des Lumières naissantes. Mais un homme va bientôt rompre la monotonie de ses jours studieux. Le beau Sergueï Saltykov lui fait une cour assidue. Bon, alors au début, elle résiste. Et puis l'entourage de la tsarine lui fait comprendre qu'ici, en Russie, si elle prend un amant, ce n'est pas un drame. Tant qu'elle tombe enceinte. Et oui. Ça fait presque 10 ans qu'elle est mariée et personne ne pourrait dire si le mariage a été consommé ou non. Enfin, Catherine attend un héritier. Il est probable que Saltykov en soit le père, mais il faut reconnaître que l'enfant prénommé Paul aura un caractère aussi étrange que celui de Pierre. Tout ça pour vous dire qu'on ne saura jamais qui est le géniteur. Cette maternité ne va pas combler Catherine. La tsarine Élisabeth lui confisque quasiment son bébé pour se charger elle-même de son éducation. Pour la grande duchesse, Paul restera une sorte d'étranger pour qui elle ne développera aucune affection. Au tout début de l'année 1762, Catherine a 32 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'elle ronge son frein dans cette cour où tout n'est que paraître et intrigue. Mais là, c'est évident, les choses vont changer parce qu'Élisabeth vient de mourir. Toute la Russie est en deuil alors que Catherine organise ses funérailles dans le plus strict respect des traditions. Il n'y en a qu'un à la cour qui semble se réjouir. C'est le grand-duc Pierre qui vient de devenir le tsar Pierre III. Après les funérailles, il semble même se piquer de politique. Le nouvel autocrate n'oublie pas ses origines allemandes et l'une de ses premières décisions est de mettre fin à la guerre contre la Prusse parce qu'il voue une admiration sans borne à Frédéric II. Cet armistice se solde pour la Russie par la rétrocession des terres annexées à la Prusse alors même que la Russie était sur le point de gagner la guerre. Cette décision ressemble à une trahison pour bon nombre de Russes et elle suffit à rendre Pierre III impopulaire. Mais le tsar va plus loin. Il impose à sa propre armée l'uniforme de Prusse et demande aux prélats orthodoxes de se couper la barbe et de s'habiller comme des protestants. Il est en train de germaniser la Russie. Une folie dans un pays qui a des rapports historiques tendus avec son voisin germain. Mais que pouvait-on attendre d'un monarque ivre-mort qui joue à la poupée avec sa nouvelle maîtresse ? Catherine se rend compte que Pierre est hors de contrôle et qu'il pourrait la répudier. Un soir, en plein dîner devant la cour, le tsar ose la traiter publiquement d'idiote. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que la mère de Catherine la trouvait orgueilleuse. Vous pensez qu'une femme intelligente et fière d'elle va se laisser insulter par un homme qu'elle juge écervelé ? Je vous raconte comment Catherine s'est vengée de son mari dans le second épisode de ce récit. À très vite.